Ce soir, nous avons un sujet un peu spécial. Je ne crois pas avoir entendu une étude sur ce sujet moi-même. C'est « Beauté, vérité et sainteté ». Le titre premier, c'était « Beauté et sainteté ». Mais il m'a semblé falloir mieux d'ajouter aussi le mot de « vérité ». Alors, le titre, la question est celle-ci. Quel rapport, selon la Bible, entre beauté, vérité et sainteté? Quel rapport, selon la Bible, entre beauté, vérité et sainteté? Prenons quelques textes bibliques. « Soyez saints comme je suis saint », nous dit Dieu. « Soyez saints comme je suis saint ». Ou bien « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Mais peut-on dire, selon la Bible, « Soyez beau comme je suis beau ». N'est-ce pas? C'est la question qu'on pose. Est-ce qu'on peut dire ça? Il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit ça. Je suis la beauté même. Imitez-moi. Vous voyez, la beauté dans la Bible se rapporte souvent à la gloire de Dieu. Alors, on peut poser encore une autre question. La beauté véritable viendrait-elle du mariage de la vérité et de la sainteté? Oui, c'est une belle question, ça. La beauté véritable viendrait-elle du mariage de la vérité et de la sainteté? Nous allons commencer nos lectures bibliques avec Ésaïe 53. Où nous voyons que le Christ, on ne lui attribue pas particulièrement la vertu de beauté. On peut lire les versets 1 à 3. Quelqu'un voudrait lire les versets 1 à 3 de 53, Ésaïe 53.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Merci, merci beaucoup. Alors, il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Et la version qu'on a entendue, il n'avait ni apparence, ni éclat, ni beauté. Vous voyez, c'est déjà ça. Ça pose un problème pour notre étude. Mais on peut demander ça de Jésus-Christ, n'est-il pas lui-même la gloire ineffable, la beauté sublime, l'expression de l'être même de son Père? Vous voyez, il y a un paradoxe, il y a deux choses qui semblent se dire d'une manière opposée. Né dans la misère, il vécut sans lieu pour reposer sa tête. Il mourut la mort des criminels, les plus infâmes, pendus sur le bois de la croix, méprisés parmi les plus méprisables. Mais par contre, qui oserait prétendre que le Christ soit laid, soit grotesque, soit déformé, répugnant, par sa difformité même, une horreur à voir? Vous voyez, le contraste est très fort, très fort. Comment répondre à cette question que j'ai moi-même mise dans la boîte aux questions et qu'on a eu la gentillesse de me retourner? Voilà, c'est pour ça que je suis là. Mais maintenant, commençons. Il y a deux beautés. Une, c'est dans le monde. Et on peut dire le paraître sans l'être. C'est le maquillage, si on veut. C'est la comédie. C'est la déformation de la vérité, vous voyez ? Une beauté où l'on voit l'être, où l'on, selon le monde, le paraître sans l'être. Mais une deuxième beauté, heureusement. Selon Dieu, il y a une beauté. Selon l'ordre créé aussi, l'être qui devient paraître. Vous voyez ? L'être qui devient paraître. C'est-à-dire, la première, il y a un paraître qui est, cache le vide, et maintenant il y a une plénitude qui va se montrer visiblement. Je donne un exemple. Une grand-mère écoutait sa petite-fille de 17-18 ans, qui n'était pas très jolie, qui se plaignait d'être pas jolie. Puis la grand-maman lui dit, « Ma petite, si tu n'es pas jolie à ton âge, ce n'est pas ta faute. Mais si à mon âge, tu n'es pas jolie, ce sera ta faute. » Vous voyez ça? On est déjà au cœur de notre problème. Mais comment devons-nous distinguer ce paraître sans l'être et cet être qui manifeste un vrai paraître, un être qui se manifeste dans notre paraître? Mais comment devons-nous les distinguer? Comment devons-nous rejeter la beauté selon le monde et imiter la beauté cachée de notre Seigneur? Vous voyez, il était méprisable, il n'avait aucune apparence pour attirer les gens, mais quand même, intérieurement, c'était la gloire de Dieu, toute la beauté de Dieu, et qui se manifestait extérieurement par son enseignement, par son attitude, son amour, ses miracles. Vous voyez ça? L'être et le paraître. Être véritablement, pas seulement paraître. Oui. On a une grande tentation, nous, de paraître, n'est-ce pas? De sembler être. De se donner bonne apparence, voyez. Voyons le choix pour Samuel, fait par Samuel de Saül pour roi en Israël. Samuel 9, 1 à 2, quelqu'un peut dire ça? Vous voyez, Samuel, le peuple lui demande un roi, Dieu lui dit, ben voilà, il m'abandonne, donne-leur un roi, et puis il va leur donner un roi. Et c'est un roi que Dieu choisit, voilà. Quelqu'un peut lire 1 Samuel 9, 1 à 2 ?
Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tserer, fils de Bécorat, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête.
Voilà, voyez, ça c'est une apparence. Dans ma traduction, c'était un homme d'élite, ce Saül est beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant d'une tête. C'est un peu l'impression que j'ai quand je me trouve en compagnie de mes deux fils. C'est lui qui, sous la direction de Dieu, c'est lui que, sous la direction de Dieu, Samuel oint comme roi. Mais nous voyons dans l'histoire de Saül que la beauté du cœur ne suivait pas la beauté extérieure. Il y a un autre homme qui est réputé comme le plus bel homme de tout Israël. On en fait des éloges extraordinaires. Peut-être que vous vous souvenez de son nom. Et c'était le plus grand traître d'Israël, Absalom. Absalom, qui était d'une beauté ineffable, attirait tout le monde par sa beauté. Mais quel traître il était envers son père. Et quelle misérable fin il a eu avec ses longs cheveux. Vous vous souvenez? Attrapé dans... Il a été arraché de son cheval parce que ses cheveux s'étaient attrapés dans un arbre, puis un des officiers de David l'a tué. Puis David, regardons 1 Samuel 16, 1 à 13, mais plutôt surtout le Verset 7, c'est tout le récit où Samuel va choisir le remplacement de Saül. Et il commence par faire la même chose qu'il avait fait avec Saül. Il dit, oh, mais c'est tellement beau, il est tellement grand, il est tellement puissant. Et tous les frères de David ont été rejetés. Ils avaient plus d'apparence que David. Mais lisons le verset 7, 1 Samuel 16, verset 7. Quelqu'un veut lire?
Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Voilà, là on est au cœur de notre problème. Tout au cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde le cœur. Et les versets 12 à 13, quelqu'un peut les lire, ce même chapitre? 12 à 13, 1 Samuel 16, 12 à 13, c'est le choix de David.
Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oint-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama.
Voyez, maintenant Dieu va choisir un autre roi, un roi différent. Voyez, il avait des beaux yeux et une belle apparence. Pour Saül, il est dit, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant de la tête pour David. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence, une bonne apparence. Les proverbes le disent bien. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Voyez. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et Samuel voyait bien ça chez David. Et nous savons aussi, nous pouvons, en regardant les yeux des gens souvent, voir en fait ce qui les anime. Les yeux parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut contrefaire beaucoup de choses, mais souvent, nos yeux disent beaucoup plus que notre visage. Donc, l'apparence d'une grande beauté ne suffit pas. Il faut que le cœur soit véritablement incliné vers Dieu. De beaux yeux où la réalité de l'âme se fait voir et une bonne apparence avec un cœur droit et régénéré valent mieux que la grande taille et une beauté extérieure éclatante. Maintenant, je veux juste évoquer une tragédie qui a eu lieu le 26 décembre en Australie. C'est un couple, un jeune couple anglais, très beau couple, vraiment beau couple. Tout leur réussissait. Ils s'étaient établis près de Perth, dans l'ouest de l'Australie. Tout le monde les aimait, leur profession à chacun marchait parfaitement bien. Et voilà, le 26, c'est pas le mari, ils n'étaient pas mariés, c'était pas la coutume de l'époque. Ils n'étaient pas mariés, le mari rentre, ou bien l'ami, le conjoint rentre en taxi, sort du taxi, fauché par un jeune conducteur tué net. Et sa compagne sort de la maison, c'était devant la maison. Elle voit son mari mort. C'est son mari, disons. Elle disparaît. On la retrouve morte quelques heures après. Voyez, cette beauté-là qui était, on peut dire, qui réjouissait tout le monde, ce succès. Voyez, en un instant, Dieu peut le faucher. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est une terrible histoire. Et je me disais, ça, vous voyez, on voit, peut-être vous pouvez voir là, le couple. Oui. Un très beau couple. Alors, cette beauté-là, très difficile. Cette vie apparemment si belle, si réussie, si heureuse, fut un instant anéantie. C'est sur autre chose que le bonheur et la beauté si fragile qu'il faut fonder notre vie. Voilà ce que un texte qui a été lu quand vous avez étudié avec le pasteur le dernier chapitre des Proverbes, la femme admirable, et à la fin on lit ce verset: la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous voyez ? On est maintenant dans un autre registre. Hein ? Vous voyez les deux registres ? L'apparence qui nous vient tous les jours à travers les médias, à travers la télévision, là, à travers l'Internet, toutes sortes d'apparences. Mais la réalité, où est-elle ? Alors nous allons continuer avec le Nouveau Testament et nous allons prendre un texte de l'apôtre Pierre qui pose bien la question dont nous nous préoccupons. Être ou paraître ? Beauté ou sainteté ? Vous voyez, la sainteté est à mettre au plan de la beauté. La beauté a été davantage associé aux dames qu'à l'homme. Peut-être qu'avec l'égalitarisme actuel, cette association va changer. Peut-être qu'on va considérer la beauté des hommes plus importante que la beauté des dames. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas comme ça. Mais voici comment Pierre parle de la beauté féminine. Il opère la distinction entre une beauté tout extérieure, faite que d'apparence, et de tromperie et la beauté véritable. Alors il nous faut nous tourner maintenant mais je ne vois pas où j'ai mis ma référence. 1 Pierre 3, 1 à 6. Quelqu'un veut le lire?
Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Merci beaucoup. Vous voyez, c'est intéressant que Pierre évoque la grande beauté de Sarah. Vous vous souvenez, c'était une femme d'une extraordinaire beauté. Et sans doute le pharaon connaissait bien des beautés, mais il était très impressionné par la femme d'Abraham. Et Sarah, en fait, avait une beauté qui n'est d'ailleurs que simple apparence. Vous voyez, elle avait un mode de vie qui poussait à la beauté, qui conduisait à la beauté. Ce texte nous enseigne plusieurs choses. Il y a deux formes de beauté. L'une tout extérieure, visible, l'autre intérieure, et dont le rayonnement est un grand bienfait. On peut dire que toutes les deux sont spirituelles. Entre guillemets, la première reflétant l'esprit du monde. C'est spirituel, ça. C'est un esprit. La deuxième, l'Esprit Saint. Oui, la sainteté. On peut ajouter encore. Les deux sont matérielles, car elles paraissent toutes deux bien clairement. Vous voyez, la beauté dont parle Pierre, qui est une beauté qui est faite de toutes sortes d'astuces, qui cherchent à augmenter le charme extérieurement, ce qui n'est pas sermons mauvais, hein, je ne suis pas du tout opposé à ça, mais il faut faire très attention que ça ne devienne pas le but. Qu'on soit bien habillé, correctement habillé, ou même élégamment habillé, je vois aucun mal à ça, et même c'est à l'honneur de Dieu. Pour moi, si jamais je viens prêcher, je toujours pour me porter un costume, pour honorer Dieu et pour honorer l'auditoire. Vous voyez, c'est... Ce soir, c'est plus simple, parce qu'on est en famille. C'est pas comme une prédication. C'est pas que ces choses soient mauvaises en soi, il faut vraiment faire attention. Parce que c'est quelque chose qui nous attire vers l'apparence extérieure. Mais elles sont toutes les deux matérielles, car toutes les deux se voient clairement. Ce n'est pas des choses invisibles. Cette femme douce et paisible, dont le cœur est docile à son mari, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, ça se voit sur sa personne. Et moi, je pourrais te montrer des photos de moi avant que j'étais chrétien, puis maintenant, eh ben, tu serais content de ne pas rencontrer l'autre personnage. Voilà, c'est un changement, on peut dire, matériel, comme tu dis, hein, c'est l'expression. C'est extraordinaire. Moi, on a connu M. Badoil aussi. Extraordinaire ce qu'il était devenu. Magnifique. Alors, c'est spirituel. Parce que ça vient de l'esprit qui nous anime, l'esprit du monde. Vous voyez, quand je suis venu en Suisse, en 1960, j'étais tout jeune, je regardais évidemment tout ce qui se passait autour de moi, et en particulier les jolies filles, et je trouvais qu'elles avaient un air pur. J'étais très étonné. Maintenant, je regarde, je ne vois plus beaucoup ça. Il y a une dizaine d'années, j'étais... à Vienne, en Autriche, et j'étais très étonné, les femmes avaient un air plus pur qu'à Lausanne. Vous voyez? C'est des choses qui se voient, ce n'est pas des choses invisibles. Mais il y a une troisième chose. Il ne s'agit pas de renoncer à la beauté, pas du tout, mais d'avoir celle qui, selon la vérité et la sainteté qui en découlent, reflète la gloire de Dieu. Sa beauté même. Oh, c'est un beau programme, ça. C'est pas seulement pour les dames, n'est-ce pas? Aussi pour les messieurs. Comme Jean-Philippe le disait pour M. Badoil. Citons encore d'autres textes. Nous avons lu au sujet de dans Ésaïe, au sujet du Christ, au sujet du Messie, lui qui n'avait aucune apparence de beauté. Vous voyez? Aucune apparence de beauté. Et c'est en fait, c'était la manifestation suprême de la beauté, l'image même de Dieu. Vous voyez, l'image parfaite de Dieu. Il n'avait aucune apparence de notre beauté. On peut lire Colossiens 1, 15 à 20. Alors, qui réclame le micro? C'est une description de Jésus-Christ.
Le Fils est l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Merci beaucoup. Il y a énormément de matière dans ce texte, puis on ne va pas l'examiner de près maintenant, mais on voit que, pas seulement, on pourrait dire, les attributs spirituels, mais les attributs de l'être même de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Dans les Romains, nous lisons ça. Romains 1, 19 à 20. Car ce qu'on connaît de Dieu est manifesté pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voyez, en regardant la nature, l'homme, c'est l'image explicite de Dieu. Il est créé à son image et à sa ressemblance. L'image, il la gardera toujours parce que c'est sa nature. La ressemblance, elle peut être plus ou moins grande, plus ou moins faible. Maintenant, toute la création porte la marque du Créateur. Toute la création porte la marque du Créateur. Ça se voit même avec les pierres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien regarder les murs. J'aime bien regarder les murs. Et ils me font une impression différente. Si on a un mur en béton comme ça, je ne vais pas le regarder longtemps. Maintenant, quand on va, puis on traverse une ligne de chemin de fer, puis il y a un pont, et on voit les pierres qui sont taillées, régulièrement taillées, j'aime beaucoup mieux regarder ça. Mais il y a des murs que j'aime regarder, je les regarderai très longtemps, c'est les murs qu'il y a dans le Jura. Des murs de pierre sèche. Ils sont d'une beauté extraordinaire, ces murs. C'est intéressant. Le couteau n'est pas venu tailler. Et ce n'est pas du béton. Et ce n'est pas une façade complètement unie. Il y a quelque chose de très varié et très uni dans ces murs. Et la variété et l'unité, c'est la nature même de la Trinité, n'est-ce pas? Un seul Dieu, trois personnes. Il a mis sa marque là. Vous voyez? Alors, on voit que, mais je ne sais pas, peut-être que c'est mon avis à moi, peut-être que vous n'avez pas du tout le même avis vis-à-vis de ces choses qu'on regarde. Ça, c'est libre à chacun. Mais moi, je faisais la même chose, par exemple, quand j'étais étudiant à Paris. J'aimais beaucoup aller au Louvre, j'avais une entrée libre. Et j'allais passer, comme je donnais des cours aussi, je devais traverser la Seine depuis le quartier latin, puis aller dans l'autre côté de Paris. Je passais généralement à travers le Louvre, alors je m'arrêtais 20 minutes, une demi-heure, pour regarder un seul tableau. Et j'ai beaucoup regardé, il y a des très beaux tableaux de Rembrandt au Louvre. Et j'allais souvent les regarder et ça ne me touchait pas. Ça ne me touchait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne me touchait pas. Et je regardais des Renoirs, des impressionnistes, ou bien Titien, un peintre italien du XVIe siècle. Ça, j'aimais bien. Les couleurs. Quand je suis devenu chrétien, j'ai compris les tableaux de Rembrandt. Parce qu'il y avait cette opposition, ce contraste entre la lumière et les ténèbres. Et ça, c'est, je comprenais très bien maintenant parce que je voyais mon âme comme elle était. Avant, c'était tout allait bien. C'était tout sur le même niveau, tout le même niveau émotionnel. Tandis qu'avec Rembrandt, il y avait des niveaux émotionnels différents. Vous voyez, c'est les apparences. Les apparences vont vous montrer quelque chose de très profond chez Rembrandt, beaucoup moins profond chez Titien ou bien chez... C'est pas que c'est pas beau, hein. J'aime beaucoup encore, mais ce n'est pas la même chose. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, parce qu'on lit beaucoup de textes ce soir, je vais vous lire encore un passage des 2 Corinthiens 4, 16 à 18, et je le commenterai en lisant. Alors, Paul dit, c'est pourquoi, c'est-à-dire à cause de la vie de résurrection en nous, dont il parle avant, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, la beauté de la jeunesse, par exemple, ou la force, ou la santé, ou l'équilibre, n'est-ce pas, On le sent bien quand on vient vieux. Quand l'homme extérieur, lorsque l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais ce n'est pas possible quand on n'est pas chrétien. C'est un mouvement naturel. Les forces baissent, ça ne va pas se renouveler. Moi, je remarque que je fais plus de travail maintenant que quand j'avais 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet homme intérieur qui se renouvelle. Eh bien, ça m'oblige aussi d'aller me coucher, me reposer, de prier, et avec la prière, les forces reviennent. Et c'est ça, c'est le cas pour tout chrétien. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction, maintenant il parle de la persécution, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids. Le mot grec, c'est kabod, poids. Éternel de gloire. Ici, dans un sens, il emploie deux mots qui veulent dire gloire, gloire. Alors, aussi regardons-nous non point les choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Visible pour celui qui sait voir la gloire de Dieu dans toutes ses créatures, dans toutes ses œuvres. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternels, vous voyez. Alors, c'est pas qu'il est en train de dénigrer les choses visibles, loin de là. Mais il dit maintenant, si on regarde bien les choses visibles, on va voir derrière la main de Dieu. Si on le regarde seulement avec la lunette de la physique mathématique, etc., on va voir que la physique mathématique. Mais si on les regarde bien avec ses yeux et avec un cœur qui est renouvelé, qui sait voir ces choses, Je vous parle d'un très grand écrivain vaudois qui est peu connu. Il porte le nom d'Olivier. C'est pas juste Olivier, c'est Urbain Olivier, son frère. Et Urbain Olivier, c'est absolument merveilleux de lire parce que dans toutes les choses qu'il voyait, il voyait le sens spirituel. C'était pas un romancier intellectuel comme son frère, c'était un romancier visuel. Il voyait. C'était ce que la Bible dit en voyant. Il regarde et il voit ce qui est derrière. Alors, la Bible est pleine de ses beautés et son style est celui de la vérité se manifestant dans la sainteté qui produit la beauté, reflet de la gloire de Dieu. Voyez, il y a deux types de styles en écriture aussi. Mais il y a plus beaucoup de styles, mais il y a deux catégories, grandes catégories. C'est l'auteur qui cherche une forme parfaite sans s'intéresser au contenu. Il faut que tout soit beau, tout soit harmonieux, tout soit sans problème, disons. Et puis l'autre, c'est la style biblique, c'est la forme, le style et l'expression de la vérité, et la manifestation de la vérité. Vous voyez, c'est la différence entre l'art esthétique et l'art véridique. On va voir des exemples de ça avant de finir. Je répète, la Bible est pleine de ses beautés et son style est celui de la vérité se manifestant dans la sainteté, ce qui produit la beauté, reflet de la gloire de Dieu. Vous voyez dans Romains 8, 18, je peux vous lire ça aussi. Il dit ceci, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure, c'est Paul qui dit, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent, qui est le lot de tout chrétien, de tout homme, mais tout particulièrement du chrétien, parce que le chrétien se trouve toujours en contradiction avec le monde dans lequel il vit. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent qui vont peut-être... et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, et la gloire à venir. Alors quand l'empereur Constantin convoqua le premier concile œcuménique de Nicée, c'était juste après qu'il avait établi la paix et aboli la persécution des chrétiens dans tout l'Empire. Il a convoqué à Nicée pour discuter de la divinité du Christ, sa divinité, son humanité, qui était attaquée par un nommé Arius qui disait « selon comme les Juifs le faisaient, il n'est qu'un homme. Et il a convoqué tous les évêques, il y avait peut-être 340 évêques. Il a payé leur voyage, il les a logés. C'est l'empereur qui a fait ça, qui était devenu chrétien. Et parmi beaucoup de ces évêques, il y en avait qui avaient perdu un bras, on leur avait crevé un œil, on les avait arraché la main, on les avait tellement brûlés qu'ils ne pouvaient plus marcher. Et il est allé, il les a assemblés, il a fait un banquet pour eux, pour l'ouverture du concile de Nicée, et il est allé embrasser les plaies de ces martyrs. L'empereur. Vous voyez ? Cette laideur qui était venue des tortures cachait une beauté infinie. Vous voyez, c'est ce que dit Paul ici. Dans ce même chapitre 8, il nous parle, on ne va pas lire ça maintenant, mais dans ce même chapitre 8, il nous parle des souffrances de la création elle-même à cause du péché d'Adam. Le désordre est venu dans le monde. Et il parle que la création elle-même gémit. Vous voyez, on voit cette création si belle, mais quand on regarde de près, on voit qu'il y a des discordances aussi. Il y a de la cruauté dans la création. Les animaux sont cruels les uns envers les autres. N'importe quel jardinier, même sur son balcon, sait qu'il y a des pucerons, des toutes sortes de bestioles qui vont détruire les plantes. Tout vigneron doit lutter contre toutes ces bêtes qui vont détruire sa vigne. Il y a un conflit, il y a une misère dans cette création. Et en même temps, il y a cette beauté parce qu'elle reflète Dieu, mais elle reflète aussi la chute. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on voyait, ce que je commençais à voir quand je suis devenu chrétien, chez Rembrandt, je commençais à comprendre ça. Avant, je ne comprenais pas. On peut voir aussi dans les psaumes. On ne veut pas le lire, mais le psaume, vous pouvez lire à la maison. Le psaume 104, qui est un extraordinaire éloge de cette beauté, de l'apparence même de la création. Je vais seulement relever un certain nombre de faits. C'est un psaume qui décrit l'ensemble de la création. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, vous voyez, de beauté. Et toute ton œuvre est comme ça. Et voyez, dans ce psaume, il va faire un parcours extraordinaire. Le psalmiste voit-il cet éclat et cette magnificence? Il la voit dans toute la création, même maintenant déchue. Et il évoque d'abord la beauté du ciel, les versets 2 à 9, et des eaux, de la terre, source des biens que nous apportent toutes les créatures, 10 à 18. La lune et le soleil, le jour, la nuit, les saisons, cadre merveilleux de la vie des créatures, 19 à 24. La vaste mer et tous ses habitants, 25 à 30. Il termine par le chant de louange à la gloire de Dieu, versets 31 à 35 que je vais vous lire. Que la gloire de l'Éternel, vous voyez sa beauté, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit agréable, moi je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre, et que les méchants ne soient plus, mon âme bénit l'Éternel, loué l'Éternel. Et si vous regardez le psaume 139, je crois, Oui, dans le psaume 139, vous pouvez lire aussi à la maison, il y a là, nous trouvons après la louange de Dieu, du Dieu omniscient, le psalmiste le glorifie pour cette créature suprême qu'est l'homme. Dans les versets 15 à 18, vous avez une louange extraordinaire de l'homme. C'est toi, au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célébrerai, car je suis une créature merveilleuse. Vous voyez, je veux dire une créature belle. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun n'existe. Je parlais avec ma petite fille Marie-Ève qui fait de la médecine. Elle me disait, mais c'est quand même extraordinaire quand on étudie ça de près, ces cellules, tout ça. À quel point c'est beau, c'est magnifique. Mais je dis, mais il n'y a pas énormément des étudiants qui vont te dire ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce regard que Marie-Ève a, qui voit au-delà de la chose vers celui qui l'a créé. Voyez, il y a un refus du méchant et de la méchanceté dans ces psaumes. Eh bien, c'est qu'il y a deux triptyques. Triptyque, c'est les trois choses qu'on dit en ce suivant. La vérité, la sainteté, et la beauté, la magnificence, la gloire, voyez. Mais il y a un autre, une contrepartie malheureusement. Le mensonge, le péché, la laideur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laideur. Si on regarde attentivement, il y a beaucoup de laideur. Il y a beaucoup de belles choses aussi. Mais il y a aussi l'homme fait des choses moins belles que par le passé. Il fait aussi des belles choses. Il y a donc deux esthétiques. Celle de la beauté d'une création en hommage avec, en harmonie avec Dieu. Celle de la laideur d'une création révolte contre Dieu. Alors, dans l'esthétique chrétienne, l'homme a une harmonie entre vérité, sainteté et beauté. Dans l'esthétique antichrétienne, il y a une anarchie entre mensonge, péché et laideur. Vous voyez? Il y a ces deux tendances. Je répète, une harmonie entre vérité, sainteté et beauté, c'est l'esthétique chrétienne. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne voit pas le mal, mais le mal est toujours placé en contrepartie avec la beauté de Dieu. Il n'est pas placé comme un absolu. Tandis que dans l'esthétique antichrétienne, il y a une anarchie qui est le fruit du mensonge de cette cette triptyque du mensonge, du péché, de la laideur. Par exemple, vous avez dans la Bible l'épouse du Christ. Vous voyez dans Éphésiens 5, qui va être sanctifiée parfaitement. Et puis vous avez dans l'Apocalypse, ça c'est dans Éphésiens, dans l'Apocalypse, vous avez la prostituée du diable, qui est une horreur. Vous avez le Fils de Dieu, Apocalypse 1, 12 à 16, un texte magnifique. Mais vous avez le dragon, Satan, cette bête avec toutes ses têtes, ses cornes. Dans la véritable poésie, dont le modèle c'est pour les psaumes, par exemple, la forme devient l'expression puissante et merveilleusement expressive de la vérité. Tandis que dans la poésie esthétique, la beauté est toute seule. Elle est suffisante. Tandis que dans la poésie chrétienne, Et on va voir un ou deux exemples juste maintenant. Dans cette poésie chrétienne, la forme devient l'expression puissante et merveilleuse de la vérité. Aujourd'hui, les cantiques nouveaux s'expriment souvent avec beaucoup de bruit parfois, avec des vagues sentiments religieux, mais pas, ils ne sont pas cette expression puissante d'une vérité doctrinale et dogmatique que nous trouvons dans les psaumes de la Réforme. C'est pour ça que je vais chanter ce psaume 68, je crois. Psaume 68, qu'on a chanté avec la musique du 16e siècle, les paroles de Théodore de Bèze. Ou bien dans les cantiques de l'héritage luthérien, ou bien les hymnes merveilleux de la tradition anglaise. Beaucoup de musique, beaucoup de chants merveilleux. Et maintenant, avant de finir, je vais vous lire quelques textes qui illustrent un peu ce que je veux dire. Et ce sont tous des textes du XVIe siècle. Et je vais les lire de manière à ce que j'espère que vous les compreniez. Les textes de la Réforme. Le premier, c'est un texte de Pierre Viret qui nous parle de la beauté de la création, au contraire des idoles qui étaient dans les églises catholiques. Le deuxième, c'est de Théodore de Bèze, c'est une merveilleuse petite pièce que j'ai là, la première pièce de théâtre écrite en français, Abraham sacrifiant, écrite quand Théodore de Bèze, qui était un très grand poète, qui a traduit à peu près une centaine des psaumes pour le psautier de la Réforme. Il est arrivé à Lausanne comme professeur de grec et il aimait beaucoup écrire la poésie. Il avait, avant de s'engager dans la foi chrétienne sérieusement, il hésitait, il voulait garder ses bénéfices, sa richesse, parce qu'il avait des bénéfices ecclésiastiques, mais s'il devenait réformé, il perdait tout ça. Il avait une amie, il lui avait promis le mariage, mais s'il se mariait, il perdait tout ça. Finalement, il est tombé très malade, il a failli mourir, et en se remettant, il a dit à son ami, on part, il est parti avec son cheval, il a tout abandonné. Il est arrivé à Genève, et c'est à Genève que Calvin les a mariés. Et puis, après ça, il a été travailler à l'Académie de Lausanne avec Viret pour enseigner le grec. Mais il aimait beaucoup la poésie, alors il a fait cette pièce « Abraham sacrifiant ». On va juste lire un extrait. Et le troisième, ça vient des Tragiques de d'Aubigné. C'est un merveilleux passage sur les guerres civiles, où il montre ces deux parties qui s'entre-déchiraient sur le sein de la mer, comme des jumeaux, n'est-ce pas, qui arrachaient chacun un sein, et puis tapaient sur l'autre parce qu'ils voulaient les deux, vous voyez. Mais on va dire ça. Alors d'abord, de Viret. Dans les métamorphoses chrétiennes. Les métamorphoses chrétiennes, ça veut dire la nouvelle naissance. Les païens écrivaient des métamorphoses où on se transformait en animal. Ici, la métamorphose chrétienne, c'est se transformer en enfant de Dieu. Mais voilà, ils sont en train de discuter au sujet des idoles, des images dans les églises. C'est une discussion, je vais la lire comme ça. Mais puisqu'il est question des images, lesquelles pourrais-tu choisir plus belles et mieux peintes, portraites au vif, que celles que Dieu lui-même a peintes et portraites de sa main? Car tout ce monde-ci, le monde qui nous entoure, qu'est-ce autre chose qu'un temple de Dieu auquel il se représente et manifeste à nous? Toutes ces créatures, que sont-elles autre chose que des vives images de lui-même? Qu'est-ce que tout ce pourpris, c'est-à-dire l'enceinte de ce monde visible, qu'une boutique, qu'un magasin, en laquelle Dieu, ce souverain ouvrier, a déployé ses œuvres pour donner à connaître par son ouvrage quel ouvrier il est, et en quelle admiration et révérence nous devons Nous devons l'avoir, nous le devons avoir. Et pour voir l'expérience de ceci, ne sortons pas de ce jardin. Ils sont en train de discuter dans un jardin fermé. On allait quaire des témoignages plus loin, chercher des témoignages plus loin, mais considérons seulement combien de sortes d'images de sa puissance, sagesse et bonté Dieu nous a mises ici devant les yeux. Car autant en avons-nous vu que nous avons vu de plantes, d'herbes, de feuilles, de fleurs, voire plus vives et plus vraies que toutes les images que les prêtres ont dans leur temple. Car en celle des prêtres, il n'y a ni vie, ni odeur, ni profit, ni utilité aucune, ni chose quelle que soit qui nous puisse rien représenter de Dieu, ni de ses dons et grâces. Il continue. Car les idoles ne nous représentent que l'œuvre de l'homme. Tout notre monde moderne, alors, dans ce sens-là, est une idole. Qui les a forgées, non pas l'œuvre de Dieu, lesquelles les a maudites. Car les créatures de Dieu et ses œuvres nous représentent leur créateur et l'ouvrier de celle-ci. Par quoi il est tout évident que la moindre herbe qui est en tout ce jardin est plus digne d'être appelée image de Dieu que toutes les images faites par les hommes depuis le commencement du monde. Car si l'homme n'est entièrement abruti, s'il n'est pas entièrement abruti et privé de tout sens et d'entendement, il trouvera trop plus de beauté, d'utilité, de profit en une seule feuille d'herbe qu'en tous ces marmousets, c'est-à-dire ces images religieuses. Car il n'y a en eux utilité aucune, ni chose en laquelle l'homme se puisse servir. Il n'y a pareillement aucune beauté naturelle sinon phare, c'est-à-dire maquillage et mensonge. Car il y a autant de différence entre les images que Dieu nous a fait le portrait et celles qui sont peintes de la main de l'homme qu'entre une face naturelle et un masque ou un vrai visage et un faux. Or, juge lequel tu aimerais mieux des deux, semblablement considère si un simple laboureur ne trouvera pas de plus belles et vives images de Dieu dans son jardin, en son verger, en son champ, en sa vigne et en sa maison qu'en tous les temples des idoles. N'est-ce pas vrai? Et il finit ça, ce discours. Maintenant, Abraham, c'est Abraham qui parle. Il va maintenant offrir Isaac comme sacrifice. Dieu a promis Isaac, c'est la source du salut. La descendance d'Isaac, ce sera le sauveur. Dieu lui a promis, il serait béni dans toutes les nations. Et maintenant, il doit le tuer. Et il y a un dialogue ici, dans cette petite pièce, où Satan et Abraham discutent. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est tout à fait biblique. Voilà ce que dit Abraham. Que dis-je ? Où suis-je ? Ô Dieu, mon Créateur, ne suis-je pas ton loyal serviteur ? Ne m'as-tu pas de mon pays tiré ? Ne m'as-tu pas tant de fois assuré que cette terre aux miens serait donnée ? Ne m'as-tu pas donné cette lignée ? En m'assurant que d'Isaac sortirait un peuple, tiens, qui la terre emplirait. Si donc tu veux mon Isaac emprunter, que me faut-il contre toi disputer? Il est à toi, mais de toi je l'ai pris. Et pour autant, quand tu l'auras repris, ressuscité plutôt tu le feras, que ne m'advint ce que promis tu m'as. Ô Seigneur, tu sais comme je suis. Exécuter rien de peu je ne puis, de bon je ne puis, exécuter rien de bon je ne puis. Non pas penser Mais ta force invincible fait qu'aux croyants, il n'est rien d'impossible. Arrière, chair, arrière, affection, retirez-vous, humaine passion. Rien ne m'est bon, rien ne m'est raisonnable que ce qui est au Seigneur agréable. Et Satan, qui est là, répond, « Ah, eh bien, Isaac donc mourra, et nous verrons après ça, après que ce sera. Ô faux vieillard, tant me donne de peine !» Et Abraham, « Voilà mon fils Isaac qui se promène. Ô pauvre enfant, ô nous pauvres humains, cachant souvent la mort dedans nos seins, alors que plus en pensant être loin, et pour autant, il est très grand besoin de vivre ainsi que mourir on désire. Or ça, mon fils, hélas, que veux-je te dire ? » Et le dernier texte que je vous lirai, c'est un texte d'Agrippa d'Aubigné, peut-être le plus grand poète français, peut-être. Et c'est un texte où, dans le premier, il a écrit un livre où il y a sept parties. Et c'est la première partie qui s'appelle « les misères de la France, déchirées par les armées catholiques et les armées protestantes qui détruisaient le pays de tous côtés. » Et d'Aubigné était un protestant. Mais vous verrez l'équilibre extraordinaire de ces vers. Prend pas parti. Un peu, mais pas vraiment. En fait, ils disent tous les deux détruisent le pays. Ô France désolée, ô terre sanguinaire, non pas terre, mais cendre, ô mer, si c'est mère, cette mère, que trahir ses enfants aux douceurs de son sein. Et quand on les meurtrit, les serrer de sa main. La mère représente la France. Les deux enfants représentent les partis. Tu leur donnes la vie, et dessous ta mamelle s'émeut des obstinés, lisse la sanglante querelle. Sur ton pis, ton sein, sur ton pis blanchissant, ta race débat, là le fruit de ton flanc fait le chant du combat. Je veux peindre la France, je veux peindre la France une mère affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers, puis à force de coups, d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son beson, son jumeau, l'usage. Ce voleur acharné, cet Ésaü malheureux, fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux. Si que, pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné trop long, mais oui, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, sa souffrance, à la fin se défend et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le champ est la mer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leur coup se redouble. Leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheur ils se crèvent les yeux. Cette femme est éplorée en sa douleur plus forte, succombe à la douleur mi-vivante, mi-morte. Elle voit les mutins, tout déchirés, sanglants, qui ainsi que du cœur des mains se vont cherchant, qu'en pressant à son sein d'un amour maternel, celui qui a le droit à la juste querelle, elle veut sauver l'autre qui n'est pas là, viole en poursuivant l'asile de ses bras. A donc ce père le lait, le suc de sa poitrine, puis aux derniers abois de sa proche ruine. Elle dit, « Vous avez, félon, ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous a porté. Or, vivez de venin sanglante géniture, je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. » Ça, c'était les guerres civiles. Et maintenant, une prière. On terminera par une prière. Après ça, nous aurons un petit moment de prière. Mais je veux terminer par une prière écrite, contemporaine. Tout ce qui emplit aujourd'hui les ondes de son vacarme pitoyable et stérile, et de ses grimaces, toutes ces enflures qui envahissent nos écrans de télévision, tout cela passera, s'évanouira, se perdra dans l'histoire en poussière oubliée. Que le peuple subsiste ou bien qu'il périsse, cela dépendra de ceux qui vont devoir traverser cette sombre époque en contribuant par leur propre travail ou par une aide matérielle apportée au travail d'autrui à sauver de la destruction, à relever, à consolider et à développer notre vie intérieure, celle de l'intelligence et celle de l'âme, cette vie qui est la culture. Qu'il m'est aisé de vivre avec toi, Seigneur. Qu'il m'est léger de croire en toi. Quand mon esprit faiblit ou se perd dans l'incompréhensible, quand les plus intelligents ne voient pas au-delà du soir qui tombe et ignorent ce qu'il leur faudra faire demain, tu m'envoies d'en haut la claire certitude que tu es et que tu agiras en sorte que toutes les voies du bien ne soient pas fermées. Au sommet de la gloire terrestre, je me trouve sur ce chemin que je n'aurais jamais pu découvrir seul. Cet étonnant chemin qui, par-delà le désespoir, m'a conduit là d'où j'ai pu transmettre à l'humanité le reflet de ta lumière. Et tant qu'il me faudra la refléter, tu m'en donneras le pouvoir. Et tout ce dont je n'aurai pas le temps, c'est que tu l'auras confié à d'autres. Alexandre Solzhenitsyn. Amen.